Europe 1. Écoutez le monde changer. 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Très belle matinée à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 12h30. La bonne humeur est au programme tout cet été avec les meilleurs moments d'Anne Romanoff et toute son équipe. Ça fait du bien. Et on commence très fort avec la drôlissime Claudia Tagbo qui était à l'affiche de Ghost, le musical au Théâtre Mogador à Paris en septembre dernier.
Alors vous jouez dans le spectacle Ghost, le musical, une adaptation du film Ghost. Ça a dû être un truc terrible quand on vous a appelé pour vous proposer ça.
Ah non, pas terrible, c'est toujours un joli cadeau hein, parce que j'ai fait des auditions, donc j'étais pas très étonnée.
Vous avez fait des auditions?
Ah oui, bien sûr. Oh là là, oui.
Avec des Américains et tout ça.
Avec les Anglais.
Les Anglais.
Et oui, j'ai fait. J'ai dû faire 3 ou 4 étapes.
Voilà. Ah oui.
Ah oui, blague pas.
Ah
oui.
Ah moi je pense.
Ah non, ils sont venus me voir, monsieur Bentata, donc le directeur du Mogador, est venu voir mon spectacle quand je jouais au théâtre d'atelier. Il m'a dit, écoutez, on a ce projet-là sous le pied. Mais en revanche, moi, j'aime bien votre travail, je vous aime bien, j'apprécie votre façon de travailler et tout. Mais il y a les Anglais avec nous et c'est un peu eux qui ont la plus grosse partie de la décision. Et donc, qu'est-ce que ça vous dit? J'ai dit, mais moi, je fais toujours des castings, des auditions, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai aucun problème.
Surtout le rôle
ça.
De Whoopi Goldberg.
C'était pour le rôle de. Oui, enfin, pas. Pour Odame. Les gens, c'est vrai que dans
c'est
le film, c'est.
C'est
oui.
Bon, enfin, c'est le rôle joué par Whoopi Goldberg dans le cinéma.
Dès que vous me dites ça, j'ai envie de quitter le studio parce que quand même.
C'est la pression.
Oui. Donc, bah,
j'imagine que c'est votre idole, Whoopi Goldberg.
Oui. Mais après, c'est vrai que la couleur de Whoopi dans Gosse, c'est pas celle que j'ai le plus appréciée. Moi, j'étais plus dans la couleur pourpre. C'est là où j'ai découvert. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Mais oui, c'est impressionnant. Mais du coup, je pars en me disant.
Comme ça, la couleur que vous avez pas appréciée, je comprends pas.
C'est parce que c'est pas la même énergie au niveau des films.
Ah oui, non, mais vous, vous avez préféré Whoopi Goldberg dans la couleur pourpre que dans.
Voilà, exactement.
Oui, mais quand même, c'est une actrice fantastique.
Oui, c'est pour ça que je me dis, je me mets pas trop de pression parce qu'il y en a qu'une. C'est Whoopi Goldberg. Par contre, il peut y avoir 50 000 Odamés et il y aura une petite Odamé qui aura été faite par Claudia Tagbo.
Et comment vous avez fait alors, vous êtes, avant l'audition, vous avez été cool parce que vous savez un peu chanter et danser, mais entre un peu savoir chanter et danser et
c'est
tenir un rôle principal
c'est
de comédie musicale.
Anne, je ne vais pas vous mentir, entre un peu ce qu'on fait dans sa salle de bain et un peu ce qu'on fait quand on est toute seule sur scène et qu'on sait que tout est fait en sorte d'être mis en lumière seule sur scène et le un peu au milieu de 20 personnes qui ont fait ça toute leur vie.
C'est ça.
Là, je fais. Ok, d'accord. On va prendre l'ego, on va le mettre sous les chaussures, on va le laisser dans un caniveau loin dans la Méditerranée. Voilà.
Mais donc pour l'audition, vous êtes préparée
ou... Oui, j'ai été préparée. Après, ce qui est pour l'acting, donc je me suis fait un peu confiance. Mais pour le chant, oui, une fois qu'ils ont dit il y a un potentiel, ils m'ont envoyé chez une coach qui m'a coachée pour les auditions, rien que ça déjà.
Ah oui, d'accord.
Voilà, et donc là, je suis suivie par une prof de chant et tout. Alors après, c'est vrai, ça
vous
fait
aviez
un peu...
déjà pris des cours de chant avant?
Ah ben, un petit peu, oui. Dans notre métier, il vaut mieux, ouais.
Enfin, moi, j'en ai pris, ça n'a rien donné. Hein.
Si le prof s'est pendu.
Non, il faut un petit peu, ne serait-ce que pour apprendre à respirer.
Et la danse, vous aviez pris
la danse, la danse, moi, je sais danser, comme on dit, en freestyle.
Oui, c'est ça.
Et là, il y a chorégraphie.
Ouais,
ça compte et un et deux et c'est pas ouais là... non. Parce qu'il y a du monde derrière, il y a des musiciens en live et tout, donc c'est et un et deux et nippe, quatre et coupe et tout et un. Donc voilà,
qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez eu ce coup de fil, Claudia Tagbo, pour vous dire vous avez le rôle principal de Ghost à Mogador?
Oh là là, ils font ça vraiment. Ah ouais, ils m'ont accueilli et tout, jus d'orange, voilà, nous avons décidé.
Ils vous ont
à
fait venir?
Ah oui, fait venir.
Et moi, pour vous dire quoi,
moi je me suis dit c'est super classe, ils m'appellent pour me dire non. Il m'invite pour me dire non. Parce qu'en fait, pour dire toute la vérité, c'est que le dernier palier d'audition, ce jour-là, j'étais tellement stressée, parce qu'on m'a dit c'est la dernière fois, ma voix a fui. Ah. Donc j'ai fait de mon mieux. Et puis en fait, surtout à la fin, il y a M. Bentata qui vous prend dans son bureau et ils m'ont offert un sac avec écrit dessus Ghost, le stylo, le mug et tout ça. Et j'ai dit, ah ouais, super, c'est gentil. Et ils m'ont dit, oui, mais en fait, c'est pour vous dire qu'avec ou sans vous, le spectacle va quand même se faire. C'était vraiment pour vous remercier de ce que vous avez fait. Ils m'ont fait des boîtes de chocolat et tout. Donc, je suis partie comme ça. Donc, c'est génial, merci beaucoup. OK, pour l'orgueil, c'est toujours très bien. Et donc, après, quelques jours après, on me disait que c'était moi.
Donc, ils vous l'ont dit en face à face.
En face à face.
Ils vous ont fait venir.
Ils m'ont fait venir, ça va. Voilà, bravo pour ton spectacle, parce que comme j'étais dans la maison, on a vu ton spectacle, super. Et donc, avec l'équipe anglaise qui était là et tout, qui traduisait. Hein. Et donc, on a décidé, bravo, tu seras notre Odame. Et donc, j'avais pas tout compris. En fait, je vais... contente. Non, j'étais contente.
Alors, Laurent Barra, des choses à vous dire, Claude Attaque.
Merci, Anne, de ce lancement mirifique. Oda Mebrun, bonjour.
Oui, bonjour.
Notre dernière rencontre remonte à 1991 sur la VHS du film Ghost que mes parents avaient loué au Vidéoclub d'en bas. J'avais à cette époque une dizaine d'années, un duvet naissant, les cheveux gras, une peau en apparence semblable à celle d'un clafoutis à la cerise et ne comprenais pas les hectolitres d'écoulement lacrymal que ce film provoquait chez les adultes et les adolescentes, avec des sujets beaucoup trop flous pour un enfant de mon âge, l'amour et la mort. La mort que j'appréhende beaucoup mieux depuis que j'ai eu 40 ans et que je me suis remis au sport, imaginant déjà les discours de mes proches le jour de ma crémation. Eh ben, lui qui voulait brûler des calories. Enfin bref. Et l'amour, l'amour, l'amour qui pour moi ne se résumait qu'à un seul mot, non. Tu veux sortir avec moi? Non. Je peux venir à ta boum? Non. On se fait un ciné samedi après-midi? Non. Les esprits chagrins réunis autour de cette table vous diront que depuis, rien n'a changé et ils auront raison.
Tu m'étonnes.
C'est pas ce qu'on m'a dit. Hein.
Ne dites pas ce qu'on vous a dit, pour une fois. Pour vous dire la situation...
Parce qu'il y a eu du changement dans votre vie, j'ai appris.
Oui.
Moi aussi, j'ai appris.
Oui, je devrais apprendre à me taire, moi, des fois. Alors, pour vous dire, la situation est tellement inquiétante que j'ai même failli aller voir une de vos collègues voyantes. Je juste failli, parce que quand j'ai sonné chez elle et qu'elle m'a répondu qui c'est, j'ai fait demi-tour très rapidement, pensant stupidement qu'il n'y avait qu'une seule Oda Mebrun, et pourtant je me trompais, et quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que vous repreniez du service sous les traits de la comédienne Claudia Tagbo, cette comédienne que j'ai longtemps soupçonnée de nous espionner, mes potes et moi, tellement sa vision sur les hommes était juste. Les hommes qui cherchent une deuxième mère, c'est nous. Les hommes qui veulent faire 50-50 au restaurant au moment de l'addition, c'est encore nous. Les hommes qui disent à leur copine, après avoir eu une panne au lit, bébé, je comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pénal, c'est eux. Claudia Tagbo, vous allez être parfaite dans ce rôle parce que vous avez une qualité qui fait de vous une grande comédienne et qui vous rendra encore plus crédible dans la peau de cette célèbre voyante. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Ce qui, en tant qu'homme plutôt macho, je dois l'avouer, devrait m'énerver mais me fait rire aux éclats. Et pour cela, bravo.
Europe 1, passez l'été avec Anne Roumanoff.
Jusqu'à midi et demi sur Europe 1, les meilleurs moments de Ça fait du bien, c'est votre programme de l'été avec Anne Roumanoff, toute son équipe évidemment, et leur invitée Claudia Tagbo, que vous pouvez voir en ce moment au cinéma dans Tout simplement Noir, le film de Jean-Pascal Zadi et John Wax, sorti mercredi dernier. Vous avez des crampes avec les chorégraphies ?
J'ai mal. Alors, toutes les semaines, depuis que je m'inflige, toutes les semaines, je me dis, allez, massage, obligation.
Ouais. Ça va ?
Obligation, oui, parce qu'autrement, je ne vais pas. Massage et un peu de cryo, si je peux.
Cryothérapie ?
Ah, oui, c'est du froid.
Non, mais c'est ça, tu rentres dans un truc froid.
Oui, je ne reste pas longtemps, je me la raconte là. Mais ça... parce que déjà, la fille, elle est claustro, même quand le gars me parle, je fais ouais, c'est bon, dépêche-toi. On a presque envie de faire ça, rentrer dans le congélateur chez moi.
Vous en avez fait, Voine.
Oui, moi, j'ai fait de la cryothérapie pour congeler les graisses. C'est-à-dire, on te congèle tes graisses.
Et puis ça a décongelé, donc. Tout est revenu.
On congèle les graisses.
Oui, ça fait 3 semaines à partir. Oui. Enfin, mais je sais pas si c'est parti.
Bah oui. J'ai eu la canicule. D'accord. Regardez dans le bac à glaçons, peut-être. Tout a fondu.
Mais ça fait quoi ? Non, mais c'est ça.
Ah bon,
on te met des plaques sur
d'accord.
les gras.
D'accord.
Le gras.
C'est sexy en tout cas.
Ah ouais, ça, ouais. Hein. Et après, tu pars avec ton gras et tu fais des steaks. Je sais pas. Non, c'est bizarre quand même, non ?
Non, c'est un truc esthétique. Mais après, vous dire d'accord. si ça marche, j'ai quand même.
Non,
vu
moi, j'y vais juste pour les douleurs articulaires, les choses comme ça, pour le. Voilà, comme les sportifs, quoi, pour récupérer.
Alors, parlons de vous, Claudia Tagbo.
Hein ? Oui,
il paraît que vos parents répétaient toujours, c'est un don d'être en vie.
Ah oui. Oui, il répète toujours. C'est un don d'être en vie parce que pour l'instant, avec tout ce qu'il y a autour de nous, scientifiques, tout ça, il n'y a pas encore de machine où on met des sous pour se dire demain matin, je me réveille à telle heure et je serai en vie. Ce n'est pas nous qui choisissons, en fait. Donc, on y croit ou qu'on n'y croit pas. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que le matin, on peut se réveiller ou pas.
Vous avez grandi à Abidjan, Claudia Tagbo. Vous avez 13 ans quand vous arrivez en France. Qu'est-ce qui vous a fait rire en arrivant en France ou pleurer ?
Ce qui m'a fait rire, donc quand je suis arrivée, parce que je suis arrivée en Lozère, donc à Chana, ce qui m'a fait rire, c'est quand on m'a dit va chercher le lait et que je me suis retrouvée face à la vache et que j'ai vraiment vu. Ah ouais, donc c'est toi. Voilà, donc ça
vous n'avez jamais vu de vache
Non, pas de si près. Parce que, en Côte d'Ivoire, je vivais à Abidjan, je ne vais pas mentir, j'étais jeune.
Pourquoi vous êtes arrivée en Lozère comme ça ?
L'amour.
Mais l'amour de quoi?
Papou, nous, l'amour. Oui, l'amour, mon papou est amoureux. Il est amoureux de la France, il aime
mais
bien la province.
Mais l'amoureux de... Il était divorcé,
oui, ça, il était déjà divorcé, donc il était amoureux.
Mais
donc,
oui, voilà. Il a trouvé une femme en Lozère, en Côte d'Ivoire.
Ah, mais une femme qui voyageait, quoi.
C'est ouais, mais c'est-à-dire, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque.
Qui... Ben non, mais c'est quelqu'un qui rencontre en Afrique.
Ah, c'est une femme qui vient en Afrique, en vacances?
En vacances, ou je ne sais pas, elle était venue pour bosser, je crois. Là, ouais. Vous rentrez trop dans les détails, je ne sais pas, moi, j'étais jeune, je me présente, je dis, ah ouais, salut, ça va, tu vas bien.
Alors, et alors, il a, et elle prend les 7 enfants en Lozère?
Ben non.
Ah bon?
Ben non, les 7, ils arrivent après. Ah, non, on était 3 au départ.
3 avec la première maman.
Ben oui.
Ah, et pourquoi votre mère, elle a laissé partir les 3?
Ben, c'est les divorces.
Ben oui, mais alors, elle n'était pas contente ou elle...
Ben, on n'est jamais content d'un divorce. Mais les enfants, ils vont les voir les autres parents en vacances et tout ça. Ouais. On fait Anne.
D'accord.
Ben voilà.
Donc, vous partez en Lozère, elle est 3.
Oui.
Et après, il y en a 4 autres qui arrivent.
Voilà.
Et il est resté avec la même femme.
Voilà.
Et vous l'aimez bien?
Ben oui.
Ouais. Mais qu'est-ce qui a été difficile en Lozère? Vous étiez la seule noire, j'imagine.
Non, il ne faut pas dire, on était déjà 3.
Oui.
Avec mon père 4, donc ça va. Ça va, on était plus nombreux que certains. Hein.
Puis comme il y avait 6 habitants.
C'est ça.
Ben H a des choses à vous dire.
Oh. Oui, oui, Claudia Tagbo, vous tombez très bien. J'ai pensé à vous peur. Tout l'été pour un énorme projet. Et je préfère couper court aux pensées les plus sombres de mes camarades. Oui, je peux faire une phrase avec les mots été, énorme et projet sans faire référence à mon slip. Nouvelle saison. Nouvelle saison, nouveau standard.
Surtout qu'il paraît qu'en ce moment, c'est pas brillant.
Deux.
Ça, c'est des infos, je n'ai pas.
Hors de question désormais de retomber dans cet humour grossier, sexiste et en dessous de la ceinture. Hein. Je ne dis pas que l'émission mérite mieux que ça, hein, mais je dis que le gars est déjà là pour le faire, Laurent Barra. Alors non, loin de tout ça, ce fameux projet que je prépare dans le plus grand des secrets et qui va faire beaucoup de bruit n'a strictement rien à voir. En effet, ce midi, Anne Roumanoff, Claudia Tagbo, les amis, je vous annonce en exclusivité que je monte ma première comédie musicale.
Yes.
C'est pour ça que j'ai pensé à vous, Claudia. Hein. Avec Goss, vous êtes devenue un petit peu la nouvelle Olivia Newton-John de chez nous.
Wow. Hein,
je ne vous cache pas que je ne souhaite m'entourer que des meilleurs, la crème de la crème, le haut du panier. Paroles et musique, j'ai pris ce qui se fait de mieux. Elton John, Pharrell Williams, Beyoncé, Jean-Jacques Debout. Ouais. C'est vous dire l'ampleur du projet. Alors sur scène aussi, j'ai besoin du top et vous êtes mon premier choix, Claudia, et la concurrence n'est pas au niveau. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui sache tout faire, jouer la comédie, chanter, danser, transmettre des émotions.
Bah ça, c'est tout moi, ça.
Non, Laurent, j'ai dit transmettre des... Non, j'ai dit transmettre des émotions, pas transmettre des MST. Ouais, je vous pitch. Je vous pitch mon projet, Claudia. Vous vous souvenez de la comédie musicale Notre-Dame de Paris?
Oui.
Eh ben moi, je la mienne, accrochez-vous, ça va s'appeler Notre-Dame en rouge de Paris. L'histoire d'une femme qui ne s'habille que de rouge et qui cherche inlassablement l'amour dans les rues de la capitale. Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. Alors le personnage principal s'appelle Anne.
Oh,
c'est un hasard. Et c'est vrai qu'à première vue, on ne voit pas tout de suite le rapport entre Notre-Dame en rouge de Paris et l'œuvre originale de Victor Hugo. C'est vrai, hein, c'est seulement à la fin du spectacle, lorsque mon héroïne se fait sonner les cloches, qu'on fait le rapprochement. En effet, dans mon histoire, la dame en rouge fera la rencontre de Quasimario, un plombier quasi italien. Je suis pas sûr de cette vanne. Je ne sais pas encore, on va le chercher ensemble. Claudia Tagbo, je vous demande pas de me donner une réponse maintenant, évidemment, vous êtes déjà très occupée avec cette adaptation de Ghost à Mogador. Mais si vous pouviez me le dire rapidement, parce que si c'est pas vous qui prenez l'autre, je serais obligé de dire oui à votre concurrence. Rihanna, c'est bien, mais Claudia, c'est mieux.
Merci. Oh, c'est gentil.
Très belle matinée sur Europe 1. Dans un instant, on va retrouver Anne Roumanoff et toute son équipe pour les meilleurs moments de Ça fait du bien avec le chanteur Gauvin Serre. Mais en attendant, voici le duo Mark Ronson et Miley Cyrus sur Europe 1.
You on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can't.
is blowing. Remember what you said to me, you were drunk in love in Tennessee, and I hold it, you both know it. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Praise like a heart. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. There's broken silence by thunder crashing in the dark. This broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart.
Mark Ronson et Miley Cyrus pour vous accompagner sur Europe 1 pendant cette matinée autour de la bonne humeur. Et bien c'est Anne Romanoff et toute son équipe que l'on retrouve. Ce sont les meilleurs moments de Ça fait du bien jusqu'à midi et demi avec leur invité, le chanteur Gauvin Serre, qui est venu présenter son dernier album Les Oubliés, qui s'est écoulé à plus de 150 000 exemplaires.
Alors Gauvin Serre, vous avez 29 ans, vous,
oui.
êtes, vous avez grandi dans la Creuse, vous êtes né à Limoges.
Ouais.
Et là, vous avez un succès incroyable avec finalement un album très atypique dans le paysage actuel de la chanson française.
Ouais, c'est vrai que ce genre de chanson-là, on va dire de la chanson française assez classique finalement dans la forme, n'est pas très en vogue, on va dire, dans les médias, dans les radios. Mais justement, moi j'avais à cœur de continuer dans cette lignée-là qui m'a donné envie d'écrire des chansons. C'est Brassens, c'est Jean Ferrat, c'est Barbara, c'est Souchon, Renaud aujourd'hui. Et voilà, c'est un genre de chanson, je crois, qui fait partie de notre culture, et j'avais à cœur de raconter moi mes histoires de mon époque sur une musique assez atemporelle finalement qui existe depuis très longtemps.
Alors il y a une histoire assez incroyable avec Renaud, c'est que un de ses collaborateurs écoute votre album sur internet, lui il est à côté.
Ouais.
Et il dit c'est quoi, c'est bien, ça me plaît.
Ouais.
Et il vous appelle, il vous demande de faire sa première partie, et vous croyez que c'est une blague.
Ouais, en fait l'album n'était pas sorti, hein. C'était juste une chanson qu'on avait enregistrée vraiment en session acoustique dans un studio. On avait sorti un titre
sur internet.
Ouais. Et en gros, ouais, un de ses assistants écoute cette chanson avec lui à côté, et il a tendu l'oreille, il a beaucoup aimé la chanson, il a voulu en écouter une deuxième. Et une demi-heure après, il avait trouvé mon numéro, il m'appelait. Et c'était trois jours avant son premier Zénith, son grand retour après 10 ans d'absence. Et voilà, il m'appelle, il me dit « Salut, c'est Renaud au téléphone ». Donc là, évidemment, j'ai cru une blague au début. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était…
T'as dit à ton copain « Arrête tes conneries
voilà. ». Non, j'ai rien dit. j'ai pas pris de risque. Mais non, après, j'ai évidemment reconnu… parce qu'il est quand même très difficile à imiter vraiment très bien. Et voilà, il a parlé de mes chansons avec des mots hyper touchants. Ça a duré très longtemps. Et c'est à la toute fin de la conversation qu'il m'a proposé les premières parties. Et là, il y a eu un gros blanc. Voilà.
Et là, vous avez raccroché, vous avez pleuré, comment ça s'est passé?
Non, j'ai hurlé dans la rue, parce que j'étais dans un resto, donc je suis sorti du resto pour prendre le coup de fil, et là, c'est vrai que j'ai hurlé dans la rue, j'ai pas pu, je devais rentrer chez moi, du coup, et j'ai même pas pris le métro, parce que j'avais trop peur de croiser des gens, tellement j'étais excité, je voulais pas être enfermé, donc je suis rentré chez moi à pied, j'ai mis 45
minutes. C'était quoi
comme
restaurant, alors? Ça vous apportait bonheur?
Ouais, et j'y retourne, du coup, super souvent, par superstition. C'était un restaurant chinois de nouilles chinoises.
D'accord.
Ça s'appelle Happy Nouilles.
Le suite, ça fait moins chanson française.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et donc, vous avez commencé par la première partie au Zénith? Non, quand même.
Non,
pas.
Non, non. Après, c'est vrai que les gens croient que j'ai commencé ma carrière à ce moment-là, mais non, ça faisait 2 ans vraiment que je
jouais
dans des
petits. Non, mais
vous avez
joué au Zénith en vous prévenant 10 jours avant, ou alors
3 jours avant, c'était. Et,
trois
oui,
jours
par
avant.
Contre, 3 jours après ce coup de fil-là, on était au Zénith.
Vous n'avez pas dormi, j'imagine.
Non, j'étais. même quand je traversais les passages cloutés dans Paris, je regardais 15 fois pour au cas où il m'arrive quelque chose, parce que je voulais vivre le truc. Et c'était assez fou. Ouais. Et puis en fait, on devait jouer que les 10 dates au Zénith à Paris. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'on a fait toute la tournée avec lui.
Donc 75
on a fait,
dates avec lui.
Ouais, même quasiment 100 en fait.
Et c'était très cohérent. Enfin, j'étais au Zénith de Paris. Ouais. Et c'est très rare que les premières parties soient écoutées par le public. Généralement, ouais, les gens se placent, ils s'achètent à manger. Et vous, on vous écoute, quoi. Il y avait vraiment un côté, c'est qui ce mec-là?
C'est comme si vous avez parrainé, en quelque sorte.
Ouais, je l'appelle comme ça maintenant, aujourd'hui. Et c'est,
vous l'appelez quoi, parrain?
Mon parrain, ouais.
Et alors, vous lui avez fait écouter votre deuxième album avant qu'il sorte?
Ouais, bien sûr. C'est le premier à qui je l'ai envoyé. Et voilà, il m'a laissé un message vocal. Bon, je peux pas dire ce qu'il m'a dit, mais ça m'a pour le coup vraiment bouleversé, parce que c'est forcément son avis compte beaucoup pour moi. Et avec tout ce qu'il a fait. Et puis, voilà, c'est un spécialiste en matière de chansons. Je crois qu'il a pu en approuver. Et voilà, ça m'a fait hyper plaisir. Très chaud au cœur qu'il écoute cet album-là. Et voilà, c'était important, très important pour
moi. Et vous, ça vous a donné envie de reprendre ou de chanter en duo avec lui, ou de reprendre une de ses chansons de Renaud?
Bah, reprendre, j'en ai déjà pris par-ci, par-là, dans des concerts ou à certaines occasions. Après, faire un duo, ouais, pourquoi pas, ça serait une manière de boucler la boucle. Après, je sais qu'il n'est pas très friand de duo de manière générale. Et ça serait peut-être un peu trop évident aussi, alors je sais pas, on n'en a pas du tout parlé. Et pour l'instant, j'essaye de tracer mon chemin sans.
Alors, il y a une énorme tournée qui arrive.
Ouais, avec Renaud en première partie. Ça va être sympa. Ouais.
Vous allez prendre qui en première partie, du coup?
Du coup, j'aime bien rendre un peu la monnaie de la pièce et mettre des gens en qui je crois vraiment beaucoup en première partie. Donc, il y a eu plusieurs artistes sur la précédente tournée. Il y a eu Govrache, quelqu'un qui fait du slam.
Déjà, il a copié votre nom, Govrache.
Il a un talent dingue. Il y a aussi Frédéric Bobin, Clio aussi, avec qui j'avais fait un duo sur le premier album. Donc voilà, que des amis artistes. Ouais,
et le serveur de Happy Nouille.
Ceux qui perdent les écoles, les cravates et l'école sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne est paumée, et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Cette chanson a marqué des esprits. Et c'est une belle histoire. Vous êtes vous-même fils d'instituteur, vous avez grandi à la campagne, et un jour, un instituteur dont l'école est en train de fermer vous écrit.
Exactement.
Racontez-nous.
Ouais, il m'envoie un mail, une espèce de dernière chance, une bouteille à la mer, parce que voilà, il essayait de faire plein de choses pour essayer de sauver ses deux dernières classes dans son école.
Elle était où, cette école?
À Pontoile, dans la Picardie, dans la Somme. Et voilà, il me racontait son histoire avec énormément de passion aussi de son métier. Et voilà, j'ai tout de suite eu envie d'en écrire une chanson, parce que je voulais aborder le thème de la désertification des campagnes au sens large depuis un petit moment. J'avais pas trouvé le moyen d'attaquer la chanson, et c'est vrai que quand il m'a parlé de la fermeture de l'école, je me suis dit que c'était le symbole le plus fort, parce que quand une école ferme, bah c'est la petite épicerie aussi qui va fermer, c'est la gare qui est moins desservie, et puis c'est une perte des contacts humains, on va dire, au sens large. Et voilà, je trouvais que ça faisait un super sujet de chanson, un sujet d'actualité de notre époque, peut-être qui aurait pas pu être écrite il y a 20 ou 30 ans.
Et du coup, il est où, cet instituteur, maintenant, alors?
Bah, il est dans un village à 5 km, je crois, plus loin, mais voilà, dans une école très différente où il y a, je crois, 250 ou 300 élèves, où les gens sont 35 par classe et où il y a moins cette proximité. Et forcément, lui, il est très déçu.
Vous avez été faire un concert à Pontoile aussi?
Ouais, on a fait deux concerts, même avec Martial, justement, en duo, en acoustique. On a monté un espèce de chapiteau dans la cour d'école. Et donc, Donc voilà, on a chanté Les Oubliés avec les enfants. Enfin voilà, c'était vraiment une expérience de dingue. Et même si, évidemment,
du coup,
j'aurais préféré.
Ça va devenir être un hymne de toutes les écoles qui ferment, cette chanson.
Bah, en tout cas, ouais, elle est beaucoup reprise par des enfants qui essayent de sauver leurs écoles. Elle est reprise aussi par tous les services publics au sens large.
À un moment, votre chanson, Gauvin Serre, ça a été un peu comme l'hymne des Gilets jaunes. Ouais. Comment vous avez vécu ce moment
Bah, c'était très perturbant parce que c'est vrai que quand j'ai écrit cette chanson-là, c'était 6 mois avant le début de ce mouvement-là. Et c'est vrai que de voir que les gens revendiquaient un petit peu exactement, enfin en tout cas, une des premières revendications, c'était exactement cette chanson-là. Et à la fois, ça m'a fait plaisir parce que ça veut dire que j'avais tapé juste et que voilà, ce que j'avais entendu quand je rentrais justement chez moi dans la Creuse, dans les discussions, cette espèce de sentiment d'abandon que je ressentais, il a explosé un petit peu à la face de tout le monde. Et ça, je crois que c'était important. Après, il y a eu tellement de revendications dans ce mouvement que c'était compliqué de finalement d'être à la fois d'accord avec tout et à la fois en désaccord avec tout. Donc voilà, c'était difficile de se positionner, je trouve. Mais en
la
tout cas,
la prochaine fois que vous sortez un single, envoyez-le à Macron qu'il puisse anticiper un peu. Quoi.
C'est un
si
peu
vous
ça.
Avez 6 mois d'avance ouais. sur lui, comme ça, au moins, il peut prendre les mesures.
Vous pourriez d'ailleurs faire une chanson pour soutenir Macron maintenant, parce que vous aimez bien les gens qui ont des problèmes.
Ah bah dans là, quelques être... années, les oublier, ça va être lui. Ouais.
Ça va être beaucoup plus compliqué, je crois, de ce côté-là.
Laurent Barra a des choses à vous dire, Gauvin Serre.
Ah, hey, merci de ne pas m'avoir oublié, Anne. Oui, parce que généralement, Anne oublie de me lancer.
D'accord.
Je l'oubliais de l'émission. Alors, Gauvin Serre, malgré le succès qui souvent fait tourner les têtes et oublier l'essentiel, vous n'avez rien oublié. La famille, les amis et cette enfance passée dans la Creuse. La Creuse, ce charmant département de France dans lequel SFR, Free et Bouygues Télécom ont oublié d'étendre leur réseau. Et là-bas, oublié la 4G, oublié la 3G, oublié la 2G. Mais juste la promesse d'une célèbre émission de télévision de permettre aux agriculteurs oubliés de l'amour, certainement trop occupés à cultiver des légumes oubliés, d'enfin découvrir le fameux point G. Les paillettes, le succès et des millions de vues sur YouTube pourtant. Vous n'avez rien oublié. Porte-drapeau d'une France d'en bas, jetée aux oubliettes que les hautes sphères de l'État ont tendance à oublier au profit des grandes villes, bien plus rentables à leurs yeux. Pardon. N'oublie pas d'être drôle. Viens de me conseiller par télépathie Anne Romanoff sur un ton légèrement professoral. Ce ton professoral qu'il manquera de plus en plus dans nos villages oubliés où l'éducation l'est apparemment tout autant. Et ce que d'ailleurs vous n'oubliez pas de souligner dans votre sublime chanson justement intitulée Les Oubliés. Sensible au sort des écoles qui ferment les unes après les autres faute d'effectifs et de moyens suffisants. Et comme les médecins de villages qui désertent leur cabinet si chaleureux pour des diagnostics citadins bien plus commerciaux à base de « c'est le stress ouais. ». Mais docteur, j'ai perdu un bras, c'est le stress. Prenez un Ophytose. Ce stress pourtant ressenti par cet instituteur de campagne dont la lettre vous étant adressée, comme on jette une bouteille à la mer, n'est pas tombée dans l'oubli. Et si la puissance de vos textes pouvait faire que les rires des enfants retentissent à nouveau dans ces écoles oublié, alors votre mission d'artiste engagé serait pleinement accomplie. En tout cas, quoi qu'il arrive, cet album et les messages qu'il véhicule vous fera certainement rentrer dans une catégorie très fermée, celle des artistes que l'on n'oublie pas.
Très belle matinée à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à midi et demi. Les meilleurs moments d'Anne Romanoff avec toute son équipe, évidemment au rendez-vous. Vous venez d'entendre son invité Gauvin Serre, bon, on va l'entendre chanter maintenant. Gauvin Serre, pourvu sur Europe 1.
Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull. Pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux. Pourvu qu'il y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent. Pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin. Pourvu qu'elle me trouve pas couillon chaque fois que je cite le dîner de con. Pourvu qu'elle connaisse Coq en stock et quelques jurons de ad hoc. Pourvu qu'elle ait le sens de l'amour et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour. Pourvu qu'elle digère bien les huîtres. Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle lise les cartes Michelin. Pourvu qu'on s'échange nos bouquins. Pourvu qu'elle vole mon marque-page et qu'elle soit pas trop maquillage. Pourvu qu'elle parle à mes copains
pour que ça devienne ensuite le sien. Pourvu que son père soit pas le sosie de Donald Trump, je vous en supplie. Pourvu qu'elle sache qui est le prest, pourvu qu'elle vote pas pour la peste, pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe que je respire avant qu'elle parte, pourvu qu'elle ait l'alarme facile, pourvu que ce soit une cinéphile, pourvu qu'elle prenne tous les coussins comme il est touchant d'Aroussin. Comme il est touchant d'Aroussin. Pourvu qu'elle soit le genre de compagne qui part sur les routes de campagne où deux voitures peuvent pas se croiser, les bottes de foin, les bottes aux pieds. Pourvu qu'elle soit aussi de celles qui pensent à remplir leur cervelle, qu'elle penche plutôt vers Modiano, qu'elle penche pas trop vers Morano. Pourvu qu'elle veuille beaucoup de gamins, c'est dingue d'avoir des si petites mains. Pourvu qu'elle se moque un peu de moi sur ma coupe au bol d'autrefois. Pourvu qu'elle pianote le matin la BO d'Amélie Poulain. Et pourvu qu'elle aime cette chanson autant que la voix de Gérard Darmon.
D'écrire un troisième album, il est en studio en ce moment pour l'enregistrer. Gauvin Serre avec Pourvu sur Europe 1. Il était l'invité d'Anne Roumanoff dans les meilleurs moments de Ça fait du bien. On retrouve Anne et toute son équipe avec celle qui vient d'être nommée ministre de la transition écologique, Barbara Pompili.
Pompili, Pompilop. Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Vous êtes jeune, vous êtes une femme, vous êtes écolo, vous avez été la première ministre de François Hollande à soutenir Emmanuel Macron. Et pourtant, vous n'êtes pas au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je suis très contente d'être députée parce que quand on est députée, on a beaucoup plus de liberté de parole et parfois d'action que quand on est ministre. Donc j'ai fait un peu. C'est très intéressant d'être au gouvernement. On a quand même des possibilités d'agir. Et quand on est dans un ministère, il faut vraiment que ce soit des sujets sur lesquels on a envie d'avancer, on a les capacités de le faire.
L'écologie, il y avait une place qui s'était libérée quand même.
Oui, ils ont choisi François de Rugy, ça va. François de Rugy, c'est quelqu'un qui est écologiste et qui bosse bien. Donc l'important, c'est qu'on avance sur ces sujets-là.
Vous avez été déçu quand votre téléphone n'a pas sonné ?
Non, parce que je savais que ça ne sonnerait pas.
Pourquoi ?
Pour plein de raisons.
Lesquelles ?
Elle est chez Free. je pense que le rapport que j'ai fait sur le nucléaire a dû jouer un rôle. On me dit que non, hein.
Mais vous savez que oui.
Je pense que oui.
Parce qu'en fait, vous voulez vraiment réduire au maximum le nucléaire et Emmanuel Macron n'est pas d'accord avec ça.
Emmanuel Macron, il s'est engagé là-dessus. Il s'est engagé à respecter la loi de transition énergétique. Donc, je ne m'inquiète pas, c'est pas
vous,
le sujet.
Vous y alliez plus loin, vous.
Par contre, non, pas forcément. Moi, je veux juste qu'on applique les lois. Vous savez, déjà, ce serait bien. Par contre, je sais que certains n'ont pas du tout apprécié le rapport que j'ai fait, tout simplement parce que c'est beaucoup de travail, que c'est un travail sérieux et que quand on travaille sérieusement, bah, parfois, on voit des choses qui ne font pas plaisir.
Vous dites que ça a été très compliqué d'enquêter là-dessus avec la commission parlementaire parce que EDF faisait de la rétention d'informations. Vous disiez que c'était secret défense.
Oui. Bah, ils classent tout secret défense, comme ça on ne peut rien voir. Et quand on pose la question, quand même, s'il y a une bombe qui arrive sur la centrale, est-ce qu'on est protégé ? Oui, pas de problème. Je comprends qu'il y ait des choses qui ne puissent pas être accessibles, parce qu'il y a aussi quand même des mesures de sécurité qui dépendent du secret, donc ça ne me gêne pas sur le principe. Par contre, que des parlementaires, qui sont les élus de la nation, ne puissent pas vérifier, c'est un problème. Donc on est en train de travailler à créer une délégation de parlementaires qui auraient accès au secret défense sur ces questions nucléaires pour pouvoir tout simplement vérifier. On ne va pas commencer à aller balancer des plans sur Internet. mais par contre, que nous, on puisse dire, écoutez, nous, élus, représentants du peuple, on est allé voir ce qu'on nous a dit. On n'a pas juste gobé béatement que tout allait bien. On est allé vérifier. Et oui, tout va bien. Ou non, là, il y a un petit problème et il va falloir s'en occuper. Voilà, je trouve que c'est la base.
Barbara Pompili, vous avez commencé votre carrière politique comme députée Europe Écologie Les Verts avant de quitter ce parti à l'issue des élections régionales. Depuis, le parti a complètement disparu de la scène politique, c'est à cause de vous ? Ou alors le parti c'était déjà comme les abeilles en voie d'extinction, c'est...
J'espère que les abeilles s'en sortiront mieux.
Vous avez embrassé la cause écologique, du coup il y a beaucoup de mecs qui se sont fait passer pour des causes écologiques. Vous n'avez pas du tout l'image qu'on se fait généralement des militantes écolos. C'est peut-être carré... Vous n'avez pas les cheveux sales, vous ne portez pas de vieux chandail en chambre,
que cette image,
vous n'avez pas de sabots, pas de chemise de grand-père, vous avez un nom qui fait penser à une vedette du cinéma italien des années 60, vous n'avez pas la tête à être fan de Manu Chao, vous n'avez pas de moustache, pas de pipe. Parce que vous n'avez jamais saccagé de McDo, vous n'êtes pas végane, pas végétarienne. J'ai même lu que votre plat préféré c'était le tartare de bœuf. Bref, vous donnez carrément envie de devenir écolo, Barbara Pompili.
Mais j'essaie justement de faire comprendre que l'écologie c'est pas forcément une caricature et qu'on peut être écologiste, avoir des convictions ancrées et puis essayer de vivre le mieux possible. Être écologiste c'est juste réfléchir deux secondes quand on agit et surtout avoir un peu de bon sens. En fait pour moi l'écologie c'est le bon sens.
Tu vois tes barbecues du week-end Jean-Philippe?
Bah, c'est écolo.
C'est pas écolo.
C'est que du bois, c'est bio.
Ça dépend quel bois.
C'est un handicap, Barbara Pompili, d'être si jolie quand on fait de la politique?
Vous êtes gentille, mais là maintenant ça commence à passer parce que je commence à vieillir un petit peu. Donc, les choses bougent là-dessus. C'est vrai qu'avant, en 2012, quand je suis arrivée, il n'y avait encore pas beaucoup de femmes à l'Assemblée, des femmes jeunes, n'en parlons pas. Puis alors, présidente de groupe à l'Assemblée, c'était jamais arrivé. J'étais fière de montrer que petit à petit, le plafond de verre, on le cassait. Et puis, il y a Libération qui est venue, qui a dit « Oh, on va faire un portrait de vous, vous savez, le portrait de la dernière page. » Donc, j'étais fière. Donc, je reçois le journaliste, on discute et tout. Et puis, pendant ce temps-là, il y a un photographe qui dit « Je vais prendre des photos. » Et puis, je dis au photographe « Vous prenez quoi ?»« Enfin, quel an ?»« Oui, je prends ça. »
Voilà. Le buste.
Oui, excusez-moi. Et puis le portrait paraît. Et déjà, le titre c'est Sœur Sourire. Bon, déjà. Et puis la photo, blam, le truc est un peu. La jupe est un peu relevée, donc on voit les cuisses. En plus, j'ai horreur de mes cuisses, donc je vois ça.
Et donc. Barbara Pompili, je peux vous raconter. Ma photo de Libé sur la dernière page, c'était pas tellement mieux.
Ah bah voilà.
Enfin, j'étais aussi très flattée. Le mec me dit on va se mettre de profil, vous allez ouvrir la bouche.
on peut arrêter là, peut-être.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Très belle matinée à l'écoute d'Europe 1. Dans un instant, la suite des meilleurs moments d'Anne Roumanoff et toute son équipe avec leur invitée Barbara Pompili. C'est juste après Aloe Black, My Way sur Europe 1. I've been sad, I've been lost, I've been down and out and lonely. Yeah. I've been surfing at a job in a world that tries to own me. When I wake up every morning, there's an image of a better place. Yeah. Cause the harder that we grind, then the sweeter is the glory. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. Put me down, criticize me with your lies and with your parody. Yeah. In the darkness, I don't hide, cause I got pride that gives me clarity. I still wake up in the morning with the vision of a better life. See, the option of defeat's just not written in my story. People say I'm foolish. People say I'm blind. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. I can make it through this. You can throw the world in my face. But the fear gives me life, and I swear till I die, I'm gonna do it my way. Do it my way.
cash, I don't care. I'm gonna do it my way. I can make it through this. You can throw the world in my face. But the fear gives me life, and I swear till I die, I'm gonna do it my way. Let me fly through the air. If I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. Till I die, I'm gonna do it my way.
My way. Sur Europe 1 avec la voix d'Aloé Black. Restez avec nous jusqu'à midi et demi. Vous écoutez les meilleurs moments de Ça fait du bien avec Anne Roumanoff et toute son équipe. Et leur invitée, la nouvelle ministre de la Transition écologique, qui était à l'époque, bien sûr, en novembre dernier, députée La République En Marche de la 2e circonscription de la Somme, Barbara Pompili.
Demain, donc, c'est la journée de contestation des Gilets jaunes. Vous pensez quoi de ce mouvement, Barbara Pompili? Vous comprenez la colère des Français?
Quand il y a autant de gens qui se sentent pas bien et qui veulent le dire, si on n'écoute pas, on est un peu hors sol. Donc c'est bien d'écouter ce qu'il y a. Après, je vois bien, pour avoir discuté avec quelques-uns, qu'il y a tout. Hein. C'est une colère globale. Donc chacun, en fait, prend son bout de colère et vient l'agréger sur ça. Mais je crois que nous, la responsabilité qu'on a, je crois, c'est d'essayer de redonner une perspective aux gens. C'est-à-dire que les gens, là, ils ont l'impression qu'ils prennent, qu'ils payent.
C'est le cas, quand même.
Oui, non, mais c'est vrai.
C'est pas qu'une impression.
Enfin, c'est vrai. Sur l'essence, ça a déjà existé et personne ne s'est énervé comme ça à l'époque. Hein. Donc, c'est pour ça que
la colère des gens, Barbara Pompili, aussi qu'on aura dit pendant des années, acheter des voitures diesel, le gaz sera toujours moins cher. Et maintenant, on leur dit, le diesel pollue, votre voiture ne vaut plus rien et il faut en plus que vous en achetiez une autre alors qu'ils n'ont pas déjà les moyens de payer l'essence.
Mais alors que la classe politique, pendant des années, était complètement irresponsable vis-à-vis du climat et de l'environnement, je confirme.
Ça fait combien de temps qu'on sait que le diesel est dangereux?
Là, ça commence à faire un bout de temps. C'est aussi pour ça qu'il faut aussi... regardez une certaine mentalité. En France, on ne s'occupe des problèmes que quand on est le nez dessus. Alors que la question de la pollution aux particules fines et de la responsabilité du gazole dans cette pollution, c'est une question, ça fait quand même moins de 10 ans qu'on sait que ça existe. Simplement, tant qu'on ne dit pas « bon, maintenant stop », eh bien, on continue.
Barbara Pompili, vous avez été déçue quand vous avez compris que le perchoir allait vous échapper. Vous avez maintenu votre candidature, mais vous savez que c'était mort, en fait.
Je savais que c'était mal parti.
Ouais.
Je savais que c'était mal parti, mais j'ai reçu tellement de soutien, y compris de députés. Il y a quand même un tiers du groupe qui, malgré...
les directives du président, ont voté pour vous.
Ont voté pour moi, ce qui veut dire quand même que ce combat-là a incarné quelque chose. Et quand je vois des gens qui m'arrêtent encore maintenant dans la rue... pour me dire ah, ça aurait été bien, on sent que on a loupé une occasion, c'est vraiment dommage. Et mais en même temps, je me suis sentie un peu une responsabilité vis-à-vis de tous ces gens-là pour dire oui, on a encore du mal, même chez nous, à casser le plafond de verre. Donc c'est une étape de perdu, mais si on se résigne et qu'on abandonne, ça sert à rien. Donc moi, je fais partie des gens qui se résignent pas, qui abandonnent pas, et donc on va continuer.
Donc une femme présidente, vous y croyez un de ces jours?
De la République?
Bah oui.
Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr, j'y crois. Enfin, j'espère bien que ça va arriver. Il n'y a pas de raison. Hein. On n'a pas un gène de l'incompétence. Hein.
Non, c'est Barbara sûr. Pompili, vous avez pris des coups en politique et on a l'impression que finalement, vous restez bienveillante par rapport à tous ces gens qui n'ont pas toujours été corrects avec vous, on va dire.
Oh, enfin, vous ne savez pas comment je réagis à l'intérieur.
Ah, c'est ça, je vous demande. Non, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Alors, et à l'extérieur, vous restez charmante.
Il faut savoir pourquoi on s'engage, quoi. Moi, je me suis engagée parce que j'ai envie, à mon petit niveau, de faire bouger les choses et de faire avancer ce en quoi je crois. Je me suis engagée sur la cause écolo depuis presque 20 ans maintenant. C'est pour moi... Enfin, c'est l'avenir de tout, quoi. Et donc, toutes les bassesses de la vie politique, je sais qu'elles existent. Mais là j'ai la niaque, donc je continue. Et après, on verra...
Vous êtes une guerrière, Barbara Pompili.
Une guerrière, mais pacifique, hein, peace and love, hein, écolo quand même. Hein.
Ségolène Royal, dans son livre, dénonce les rapports brutaux et machistes envers les femmes politiques. Je pense que vous avez vécu aussi des choses pas très agréables. Est-ce que vous pensez, comme vous dites, que c'est en train de bouger, qu'il y a des choses maintenant qui seraient plus possibles? Ou il y a encore un des vieux Roland et...
Je pense quand même que ça bouge. Encore une fois, tout simplement parce qu'il y a plus de femmes. Donc moi, j'étais pas très fan des quotas, puisqu'on a des quotas aujourd'hui hein, pour mettre des femmes dans des responsabilités politiques. Mais en fait, le quota permet de passer ce cap d'un monde où il y avait quasiment que des hommes. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes. Et comme il y a de plus en plus de femmes, ça fait bouger des manières de faire. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'hommes qui, même s'ils n'en pensent pas moins, et ça je peux vous le dire, c'est certain à l'Assemblée, font attention à ce qu'ils disaient. Mais ça avance. On a un petit peu aussi ce côté à devoir porter le flambeau, parce que sur le perchoir, il y a une dame qui était principale de collège et qui m'a dit, mais en fait, à travers vous, en fait, je vis ce que moi, j'ai vécu pour arriver à être principale de collège et toutes les difficultés de ma vie professionnelle. Du coup, on sent un petit peu la responsabilité de tenir, parce qu'on sent qu'il y a plein de monde derrière. Quand on voit encore que les femmes sont moins bien payées que les hommes, c'est, on en est toujours là quand même.
Pas dans cette émission. Ouais. Hein.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Pourquoi vous avez ce bandeau rouge dans les cheveux ?
Il a fait Koh-Lanta, puis du coup...
C'est lui qui a gagné l'épreuve des piquets.
Je devais faire partie de la bande des rouges, effectivement. Mais depuis que je suis petit, je fais partie de la bande des rouges.
Vous ne dormez pas avec Daniel Herrero.
Anne, j'ai, très honnêtement, j'ai cette délicatesse dans mes cheveux, je dirais, mon bandeau rouge depuis à peu près une quarantaine d'années. Ouais. Donc ce n'est pas un effet de style. De fait, je l'ai comme ça, c'est ce qui me va le mieux au cœur et au
tout
corps.
Tout le temps
Je l'ai tout le temps. Dans ma chaumière, il peut m'arriver de l'enlever, mais dès que je sors et dès que j'affronte le monde ou dès que je me mets en confrontation avec le monde...
Moi, je trouve que ça vous irait mieux bleu pour être assorti avec vos beaux yeux bleus.
Ça me paraît un peu méconnaître un peu ce que sont les traits identitaires de, ma personnalité profonde. J'aime plutôt le rouge, j'aime plutôt le turbulent, j'aime plutôt l'identitaire sans équivoque, j'aime plutôt ce qui donne la conviction quand on te voit que tu n'es pas un endormi, quoi, voilà.
J'ai l'impression que je suis dans un vestiaire, j'ai envie d'aller sur un terrain, casser la tête à tout le monde.
Non, moi j'adore, parce que c'est le genre de gars qui peut t'expliquer qui va te péter la gueule, mais joliment. Ouais, c'est ça.
Vous avez dit de vous, Denero, que vous aviez l'âme éducative et que vous étiez meilleur finalement entraîneur que joueur. Comme vous avez ce talent-là de savoir motiver les gens. Et même en entreprise, on vous engage souvent pour motiver les troupes.
Oui, alors c'est toujours un peu délicat. Ça, j'ai été trop longtemps joueur pour jeter l'anathème sur cette pratique, ce bout de route conséquent de ma vie, quoi. J'ai beaucoup aimé le terrain, le jeu, le lieu, la rencontre, le pétillant et l'effervescence de l'arène sportive, quoi. J'ai beaucoup aimé ça.
Et la moutarde.
C'était pas non plus une très caractéristique du quotidien, tu vois. Mais le ballon, oui, par exemple. Le ballon, oui, le maillot, oui, la sueur du collègue aussi, quoi, la solidarité avec les autres aussi. Enfin bon. Et de fait, la partie entraîneur de ma vie a été assez conséquente. J'ai enchaîné très vite derrière.
Comment
longtemps.
On fait pour motiver une équipe? Moi, j'en ai besoin avec ces bandes de bras cassés.
Ouais, effectivement. Voilà. Je me demande si la réciproque n'est pas vraie avec toi.
Comment ça?
Non, de fait, c'est quand même, c'est pas le sujet radicalement numéro un. Les citoyens qui viennent dans la voiture sportive jusqu'au haut niveau, ils ont franchi des étapes et ils ont un certain nombre d'attributs qui leur permettent de jouer au haut niveau. En l'occurrence, ils sont pas couillons, ils ont des aptitudes motrices, ils ont même des choses qui, dans leur cœur, peuvent ressembler à de la passion, à de l'enthousiasme, à, tu vois, à de la générosité. Alors après, la motivation, ça voudrait dire quoi, la motivation? La motivation, c'est quand ton moteur est en action, quand ça tourne dans ton ventre, que quand je te regarde, j'ai l'impression que dans tes yeux, ça pétille et que dans tes guiboles, ça va courir. Tu vois,
parce que moi, mes yeux pétillent, mais mes guiboles ne courent pas.
Pareil.
Toi aussi, t'es comme ça.
Moi, c'est pas la motivation qui manque, c'est clairement un corps.
Lui, c'est le corps. D'accord. Alors, on y ajouterait, dans la motivation, il y a quelque chose qui fait que si dans ton cœur ça pétille, ça veut dire grosso modo que c'est titulaire d'un angle un peu chaleureux qu'on appellerait la passion, quoi. Voilà. Tu vois, si t'as pas ça, ça sera difficile de déclencher de la motivation. Il est très difficile de déclencher la motivation des citoyens qui sont en face de toi s'ils aiment pas ce qu'ils font. Voilà. Tu vois,
et on fait pas d'un âne un cheval de course.
C'est pas certain.
Mais
les collègues qui sont avec toi, qui sont pas des chevaux de course olympiques, mais qui sont pas mal quand même, tu vois, si tous, ils valent 17 sur 20 et ils jouent tous les dimanches à 17 sur 20, et chaque fois qu'ils sont dans l'émission avec toi, ils jouent à 17 sur 20, franchement, c'est fantastique pour toi comme pour eux. Et si de temps en temps, ta présence, tu vois, dans cette dynamique-là, parce qu'ils t'aiment et parce qu'ils sont heureux de faire le métier qu'ils font, ils sont capables de jouer à 17,5, on les aime d'amour ad vita aeternam.
Venez tous les jours.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Du sport et de la bonne humeur, c'est le programme sur Europe 1 avec Anne Roumanoff et toute son équipe qui ont reçu l'ancien joueur et entraîneur de rugby venu présenter son dictionnaire amoureux de l'Ovalie, nouvelle édition, entièrement revue, augmentée et mise à jour en août dernier chez Plon. Daniel Herrero, ce goût de la langue, il est venu quand?
Oh là là, vous cherchez aussi.
Non,
franchement.
Non, le goût des mots.
Du verbe.
Oui. C'est le goût des verbes.
Ça vient de la moutarde ou pas?
Non, mais c'est venu quand? C'est venu quand dans votre vie? C'est venu tout de suite ou c'est venu au fur et à mesure?
très sincèrement, j'ai la sensation, moi qui suis fils d'immigré espagnol et qui l'ai eu un petit peu rude sans l'avoir dans la misère tôt dans ma vie, le goût des mots est tardif. J'ai plutôt traversé le champ du silence, y compris jusqu'à l'école, qui n'a pas été la main tendue qui libère le plus à la fois.
Maintenant, vous avez une véritable verve qui est reconnue. Dans la vie, ce talent oratoire, après, ça vous sert, hein, Daniel Herrero ? Par exemple, vous faites la queue à la poste, à la boulangerie
Je ne sais pas si on peut dire le talent oratoire.
C'est quoi Daniel Herrero au supermarché, par exemple ?
Ben, j'y vais, je fais comme tout le monde, je regarde la copine qui est devant, et puis après, tu vois, je regarde ce que j'ai devant moi. Mais non, mais en d'autres termes, c'est un lieu de vie ou de vitalité.
Vous avez votre bandeau rouge chez Carrefour ?
Bah évidemment, ma bande rouge.
Non, mais c'est un mec normal, hein, c'est pas genre il parle aux gens, il court après les pigeons. Il est tranquille, quoi.
Non, alors, par
non,
contre,
mais c'est le lyrisme que vous avez.
Ah, je ne sais pas, Anne.
Quand vous êtes devant une caissière, vous lui dites.
Je lui dis bonjour. Et j'essaye de faire en sorte que chacun des propos, chacun des mots que j'emploie ait un sens pour elle. Voilà, tu vois ça. Après, je m'aperçois aujourd'hui que les mots, les collègues qui sont ici autour de cette table et toi-même, qui en avaient quand même un goût assez prononcé, vous êtes bien rendu compte qu'en tant que tel, ils ont des forces, mais quand ils sont sans phrase, ils perdent du sens. Voilà.
Ça donne quoi, Daniel Herrero, qui s'énerve ?
Tu le trouves calme là depuis le début.
En fait, je suis extrêmement détendu, je vous avoue. Je trouve que le milieu est incroyablement affectueux et à partir de là, il libère de la parole simplement. Hein.
Mais des fois, vous énervez et ça vous fait perdre la parole quand vous énervez ou le contraire
Il met les coups de tête, c'est pour ça qu'il a le bandeau, c'est pour cacher les bosses.
Je peux avoir du goût pour la colère, honnêtement, et dans l'aventure sportive, elle a été un élément déterminant. Tu vois, quand tu rentres dans
la rage de gagner.
Ou alors, on pourrait presque dire ça. Le match dans quelconque aventure sportive de bon ou d'un haut niveau, il est quand même une confrontation, il est une opposition, il est une rudesse comme une évidence. Et la colère est souvent un assez bon guide, mais par nature, tout le monde le sait, qu'elle peut un peu aveugler, un peu inhiber, un peu réfréner et un peu t'amener à la bêtise, pour ne pas dire à la connerie. Il faut faire attention. Moi, je m'autorise.
La colère, oui, la violence, non.
Je dirais ça aussi en résumé, mais je m'autoriserai simplement 2 ou 3 colères par an aujourd'hui parce qu'elles sont salutaires.
C'était quand la dernière, Daniel Herrero ?
Je pense que c'était tout à l'heure en arrivant quand le chauffeur de taxi, enfin bon, peu importe.
Il est décédé.
Il m'a dit où j'allais, je lui ai raconté que je venais vous voir. Il n'avait pas un regard tout à fait sympathique sur l'émission, j'étais obligé d'en dormir avec les pieds, un truc à l'ancienne. Bon, ça...
Donc moi, s'il y a un mec qui m'énerve, vous allez le voir et vous l'endormez avec les pieds.
Ah, c'est une métaphore.
Hein, ça m'intéresse. Moi.
Non, il peut y avoir. Hein, ça fait quand même longtemps que je ne suis pas servi des attributs physiques pour impressionner le monde. Hein,
on sent que vous êtes capable de le faire. Quoi, ouais.
La culture qui a été la mienne, le champ de vie qui a été les miennes, ou qui ont été le mien, pardon, m'amène à penser que de temps en temps, il y a dans ta posture quelque chose qui ne doit pas être une imposture de pensée. Quoi. Quand je te vois, il faut que je sache ce que tu penses. Et si tu es en face de moi avec des choses à me dire, il faut que tu me les dises. Voilà, pas plus, pas moins. Et si ça génère à un moment de fait de l'irritation, il faut que tu le comprennes. Voilà.
Vous avez compris ? Enfermez-la maintenant, les trois. Là.
Enfin, quand quelqu'un comme vous parle, quelqu'un comme moi se tait. Enfin, il y a une sorte de règle de vie comme ça.
Si c'est lié au poids, ça m'énerverait. Si c'est lié...
Bien sûr que c'est lié au poids.
Vous avez beaucoup de stature, Daniel Herrero.
Quand t'as un citoyen qui fait 60 kilos et que t'as à côté Teddy Riner, en général, il sautait, le mec de 60 kilos. C'est une hypothèse stupide qui fait que de temps en temps, la posture impose des dominations. Quoi. Ma conviction, c'est dans ce que tu dis, dans ce que tu me montres, il y a respect.
Celui qui ne connaît pas l'émission, il dit, putain, il a pris du LSD, le Père Noël, ou quoi?
En espérant qu'ils disent que je ne suis pas une ordure. Enfin, le reste,
Daniel Herrero, je vous présente Jean-Philippe Bizini qui a essayé de jouer au rugby.
Oui. C'est pour faire plaisir à ma femme parce que j'ai découvert qu'elle était passionnée de rugby. On est allé voir un match et elle connaissait le nom de tous les joueurs. Ah, elle m'a dit celui-là c'est le mois de juillet, celui-là c'est septembre, là il y a janvier, j'ai pas pu le reconnaître parce que là avec son short et son maillot, d'habitude il est tout nu avec le ballon devant l'arrosoir, elle m'a dit. C'est là que j'ai compris que ma femme était plus intéressée par le calendrier des joueurs que par le sport en lui-même. D'ailleurs, quand elle a compris que pendant les mêlées, les joueurs ils s'entassaient tous les uns sur les autres au-dessus du ballon, ma femme, ni une ni deux, elle s'est déguisée en ballon. Elle est rentrée sur le terrain. Oh là, les joueurs, ils ont tous sauté dessus. Ils me l'ont rendu dans un état. Il lui restait plus qu'une seule dent. Et encore, elle était en travers. C'est pour vous dire, cet été, on est parti à la montagne. On s'est baladé. On a vu des castors qui faisaient un barrage. Quand les castors ont vu ma femme, ils l'ont appelée maman.
Et sa femme est ravissante.
Ouais, mais vous l'avez pas vue depuis qu'elle est partie sous la mêlée. Alors, du coup, pour faire plaisir à ma femme, je me suis inscrit au rugby. Ah, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est qu'à la fin du match, on prend notre douche tous ensemble. Et ben, je suis un peu complexé parce que les mecs sont tous baraqués avec des tatouages partout. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire des clichés sur les rugbymen, comme quoi ils sont un peu bourrins et tout ça. Pas du tout, il y a des poètes. Il y en a un dans l'équipe, il s'est tatoué tout un poème de Verlaine sur le zizi. J'ai voulu faire pareil, mais moi j'avais juste la place pour marquer coucou.
C'est pas un poème de Verlaine, coucou.
Si, j'avais pas la place pour mettre plus.
Coucou, oui, mais...
Oui. ensuite, après ça, après la douche et la troisième mi-temps, hein, Daniel Herrero, vous expliquez dans votre livre que la bière et le rugby sont indissociables. Moi, ils m'ont tellement fait boire qu'en rentrant chez moi, je me suis fait arrêter par les flics, ils m'ont fait souffler dans le ballon, je me suis envolé avec. Tout ça pour dire que le rugby, c'est pas un sport, c'est une philosophie, une façon de voir la vie. Et grâce à vous, Daniel Herrero, on tombe forcément amoureux de l'Ovalie.
Merci, voilà, voilà.
Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1 tout l'été jusqu'à midi et demi. Vous êtes en compagnie d'Anne Roumanoff et toute son équipe pour revivre les meilleurs moments de l'année. On va retrouver Anne Roumanoff et Daniel Herrero dans un instant, juste après Les Innocents.
Colore le monde sans feu, sans épreuve ni bombe. Un de l'or, les murs. Blanche comme le linge, à jamais répand. Tu fars sur les hommes, car le temps colore la foule, colore mes veines. Chaque jour, il me révèle. En chair de poule, en bleu. Chaque jour.
Un air d'été sur Europe 1 avec Color, Les Innocents. C'est la suite et la fin. Déjà, dernière partie des meilleurs moments de Ça fait du bien avec Andrew Manoff et toute son équipe, aux côtés de l'ancien joueur et entraîneur de rugby, Daniel Herrero.
Daniel Herrero, on parle de plus en plus du rugby féminin. Vous pensez que ça va se développer comme le football féminin ou pas ?
Oh, sans aucun doute, oui. Mais par contre, ça a été long. Le rugby n'a pas toujours été très glorieux dans sa relation avec le monde féminin. Il faut savoir que longtemps, la structure qui dirigeait le rugby français, qui s'appelle la Fédération, quoi, elle a jeté l'anathème sur la présence féminine dans l'aventure. Quoi. Et c'est 68 qui avait un peu impulsé. Dans les années 70-80, ça a un peu germé.
Moi,
les...
par exemple, je pourrais jouer au rugby ?
Absolue. Si tu as une garde prétorienne avec toi. Mais si...
C'est quoi une garde prétorienne ?
Mais c'est les 3 ou 4 qui sont à côté de toi et qui disent si on regarde dans les yeux, nous, on va sévir. Enfin, tu vois, ça veut dire...
Et je pourrais jouer à quel poste, moi, par exemple ?
Alors, ça serait impertinent, impertinent de me le demander, parce qu'il y a des postes en rugby qui génèrent des morphologies un peu particulières. Tu vois, quand tu joues dans ce qu'on appelle le 5 de devant, les combattantes ou les combattants, les rudoyants, d'aucuns les appellent les guerriers, j'aime pas le terme, mais ceux qui sont dans l'affrontement direct, ceux qui jouent en mêlée fermée,
c'est
par
pas
exemple.
Une demi-mêlée, c'est...
Voilà. Alors, après, tu as ceux qui dirigent, ceux qui gèrent, ceux qui ont plutôt la vivacité de lecture, ceux qui ont la stratégie plus imminente. Ceux-là, on les appelle la paire de demi. Et puis, tu as ceux qui construisent et qui élaborent, qui créent, même si de temps en temps, ils sont un peu dans le bordel. Et on les appelle les trois quarts ou les offensives.
Moi, j'aime
les...
pas du tout les coups, alors je me mettrais derrière.
Alors après, il y a le beau poste, Anne, celui peut-être qui tirait le mieux, je ne sais pas.
Arbitre.
Franchement, non, je dirais pas ça. Non, il y a
troisième mi-temps.
Il y a un poste en rugby qui, évidemment, que j'aime d'amour et que tout le monde aime d'amour, mais c'est le poste d'arrière. C'est le dernier, c'est celui qui est là-bas au loin. Il semble être celui de la surveillance, il semble être celui de la coordination. Et en même temps, tu vois, parce qu'il est loin derrière, il n'est pas directement confronté à la sévérité de l'adversaire, il est la réserve de panache.
On vous a déjà plaqué, Daniel Herrero, ou vous avez déjà plaqué ?
Ah oui, alors on sent bien que le sens est à deux niveaux. Quoi. Sur un terrain de rugby, tu plaques entre 15 et 20 fois par match. Donc à l'entraînement, tu plaques entre 20 et 50 fois par match. Donc sur une carrière, j'ai plaqué des dizaines de milliers de fois. Dans ma vie sociale, ou dans ma vie affective, ou dans ma vie tumultueuse, ou dans ma vie érotique, le plaquage était quelque chose de beaucoup plus délicat, qui méritait une grande réflexion et qui n'était pas simplement un engagement physique tonitruant. Quoi. Voilà. Tu vois, de fait, le plaquage.
Vous l'avez fait avec délicatesse alors. Quand vous quittez une femme, vous faites comment ?
Oui, c'est plaqué au sens quitter, pas plaqué contre le mur.
C'est plaqué au sens quitter. Parce que moi, je croyais que c'était la rentrée dans le mur à l'ancienne. Heureusement que vous êtes là.
Vous étiez sur autre chose.
Tenez-vous bien, j'ai quand même une haute considération de la moralité relationnelle. Et la personne qui m'accompagne, je ne l'ai jamais plaqué.
Il lui explique tout simplement que.
Vous ne l'avez jamais plaqué ?
Non.
Vous avez déjà mis sur la touche, Daniel Herrero ?
Oui.
C'est oublié ou vous êtes rancunier ?
Ah, les douleurs de l'âme, pour ce qui me concerne, sont souvent tenaces. Ouais. J'ose prétendre avoir un goût relativement complexe vis-à-vis du pardon, tu vois, mais comme dirait l'autre, je ne sais guère, peut-être un Américain flamboyant en politique qui aurait dit il y en a quelques-uns qui m'ont fait la misère, honnêtement, je leur pardonne, mais j'ai toujours la liste, quoi, voilà.
Qu'est-ce qui vous donne envie d'entrer dans la mêlée ?
Ah, de fait, c'est ce qui s'y passe, quoi. Ce qui s'y passe. Un, parce que ce qui s'y passe, la façon dont tu poses la question semble être une énigme. La mêlée, de fait, c'est une énigme. La mêlée, c'est un univers et d'une grande complexité. C'est sur un tout petit périmètre, beaucoup de gens qui se tiennent. Et, tu vois, la mêlée, c'est d'un groupe de gens qui sont les uns à côté des autres, de faire une résultante efficace, performante. Mais pour qu'on soit efficace et performant quand on se tient dans un tout petit périmètre, tu comprends bien qu'il ne faut pas simplement avoir une biomécanique et performante. Quoi. C'est pas avec une flexion-extension et le dos plat. Il faut aussi que je t'apprécie, il faut aussi que je te ressente, il faut aussi que nous soyons synchrones, que nous soyons harmonieux et peut-être même que
c'est un gros câlin. C'est un gros câlin. En fait.
Peut-être.
Mais on peut pas.
Je jetterai pas l'anathème sur l'idée, bien que le mot câlin, il nous amène vers une équivoque. Mais je jetterai pas l'anathème.
Mais
les gens qui s'aiment bien poussent fort, voilà.
Mais
alors attendez.
Je vais dire ça à ma femme ce soir.
Mais Daniel Herrero.
Vous savez qu'il y a des boîtes spécialisées pour
non,
ça.
Non, mais Daniel Herrero, on ne peut pas aimer tout le monde dans une équipe. Comment on fait alors justement ? Parce que il y a combien de personnes dans une équipe de rugby ?
Dans une équipe de rugby, c'est 15. Hein. 15.
On ne peut pas aimer 14 personnes. Il y a des affinités.
Ça me paraît un chiffre minimum, ouais. Ça me paraît un chiffre.
Alors comment
minimum.
On fait quand ça on aime paraît, moins
ça
quelqu'un
ça me paraît être un humain simplement en voie de construction que d'aimer moins de 15 personnes. Hein, je te dis tout de suite.
Ouais, quand même.
En voie de construction. Tu n'aimes même pas 15 personnes sur cette terre, citoyen. Ça me paraît très équivoque.
Donc ça, ce n'est pas bien de ne pas aimer 15 personnes ?
Alors non,
ce qui serait...
On ne peut pas avoir des affinités. Vous savez bien, quand on rencontre des gens, il y a des gens, ça passe pas, le contact.
Oui, alors...
Nous, on est quatre déjà, il y en a deux qu'elle aime pas.
Non, mais de fait, c'est la bonne question.
Et c'est jamais les mêmes, alors, en plus.
Non, mais je te dirais que, tu vois, le terrain de rugby est très original parce que c'est le seul terrain au monde où il y a 15 joueurs contre 15 joueurs. Il n'y a pas une autre pratique au monde où il y a ce chiffre-là. Il n'y a pas une pratique où il y a 18, 20 ou 22 mecs. Donc, c'est le chiffre le plus haut. Estimant sans doute que jusque-là, ça peut encore faire l'affaire. Jusque-là, chacun d'entre nous peut être ouvert à l'autre, réceptif à l'autre, à l'écoute de l'autre, dans le sens de l'autre. Maintenant, on saura que cette intensité relationnelle qui est quasiment une obligation pour que la performance soit haute et pour que le niveau de talent germe, pour que le mec qui vaut 12, il joue à 12, il est indispensable qu'il n'y ait pas d'inhibition, de fracture, de fissure, de frelaté, de radinerie, de bouderie.
Comment on fait alors pour...
On se dit que dans l'espace du match, celui-là, dans le temps du match, dans le chronos du match, tu vois, là, on ne discute plus. Ne te retourne pas, on y est tous.
Maintenant, oui. Ça fait un peu penser à un film bizarre. Hein.
Non, mais tu sais que le jeu de rugby, c'est le seul jeu du monde où, quand tu as le ballon, tu cours en avançant et tu passes la balle en arrière. Ça, tu ne peux pas l'ignorer. C'est quand même une règle étrange. Bon, c'est une règle d'anglais, donc elle est un peu stupide, elle est un peu bizarre, elle est même un peu couille. Simplement.
Non, mais
tu cours en avançant et tu passes la balle en arrière. C'est étrange. Et le numéro 2, ben, il court en avançant, il passe la balle en arrière. Donc tout ça est un peu bizarre. Avec une idée, c'est qu'on les a tous mis derrière, les citoyens ou les citoyennes qui viennent avec toi dans l'aventure, pour que tu saches que tu n'as rien à craindre, ni de peu, ni de prou, ni de rien. Voilà. Que tu ne sois jamais altéré par le moindre mécanisme de peur et que ton talent y germe. Voilà. On s'est mis derrière le mot soutien, je suis dessous, je te tiens. Avance, belle dame. Nous, on est là, t'occupe de rien.
D'où vient cette vitalité que vous avez, Daniel Herrero, cette passion?
C'est le Nesquik.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avoue m'enflammer que pour les choses que j'aime. Anne, si tu m'interroges sur le destin, je ne sais pas, moi, de l'astrophysique, je serais sans doute moins pétillant. Hein. Non, tu vois ça.
Vous avez quand même cette espèce d'énergie incroyable, Daniel. Parce que vous avez quel âge, là, quand même?
Je suis titulaire d'une certaine maturité. Comme dirait ma mère.
Titulaire d'une certaine maturité.
Et j'ai votre date de naissance, alors vous allez me la dire, et puis voilà.
Alors, comme dirait ma mère, quand tu passes à la 7e décennie, tu rentres maintenant, tu vois, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, mais ça fait une bouffonnerie, les New 50. Quand tu as 70 ans, tu rentres dans les cinquantenaires.
Ouais,
c'est à peu près ma période. Ouais.
Vous avez 50 ans.
Je rentre dans votre tête. La cinquantaine, mais je pense que je vais nous tourner la 70e, malgré tout.
Vous nous faites un chant de rugby?
Mais je t'en dis juste un refrain, hein, je me permets. On a ce chant que l'on chante quasiment qu'entre nous, mais qui s'appelle le sécante. Le sécante, c'est un chant des troubadours du 13e siècle. Ça donne sécanto, che canto, canto pasperio, canto per mamio, che saluendeo.
La main sur le cœur.
Le meilleur d'Anne Roumanoff entouré de toute son équipe, ça fait du bien. C'est le programme tout l'été de 11h à 12h30 tous les jours sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Votre journal de la mi-journée suivi d'une édition spéciale 14 juillet. À tout de suite.